Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Julie?
Ben, en fait, moi, j'avais envie, je vous ai préparé une petite présentation. Là, je n'ai jamais fait de présentation PowerPoint sur StreamYard, donc je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Là, ici, j'ai quelque chose à partager. Je ne sais pas, est-ce que je partage?
C'est déjà prêt. Donc,
c'est prêt? Voilà. OK, parfait.
C'est bon.
OK, et je peux changer les... c'est merveilleux. Donc, je veux vous parler de la plus grande opération psychologique de tous les temps. Je vous pose la question, en fait, est-ce que nous assistons à la plus grande opération psychologique de tous les temps? Donc, en fait, pour vous parler, je ne me suis pas présentée, désolée, ben, tu m'avais présenté un petit peu, Jean-Jacques. Je suis journaliste indépendante et j'ai toujours été une journaliste indépendante. Et moi, quand j'ai commencé en 2008, en fait, c'était la crise financière. Et pas longtemps après, en 2009, on a eu le H1N1. Si je me rappelle bien, c'est ça, c'est 2009.
2009.
Donc, voilà. Donc, moi, j'ai tout vu ça aller. J'ai critiqué à l'époque beaucoup les médias, en fait, pour la propagande médiatique et par rapport à ça. Et cette crise-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'influence vraiment tentaculaire de l'industrie pharmaceutique. Et j'ai commencé à m'intéresser à partir de ce moment-là. Je m'intéressais déjà avant ça à ce sujet-là, mais à la propagande. La propagande, la manipulation des foules, la manipulation, la persuasion, tout ce qui est manipulation là, des masses, si on veut. Donc voilà. Donc, je vais revenir à ma petite présentation. Donc, je pose la question aujourd'hui. Est-ce que nous assistons à la plus grande opération psychologique de tous les temps? Donc, voilà, comme tu disais, Jean-Jacques, je travaille pour la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. J'ai commencé à travailler là en avril. Et sinon, c'est ça. Oups, je suis allée un petit peu trop vite. Ah, c'est ça. Je pourrais pas faire mes animations. C'est parce que j'ai mis plein d'animations sur mon PowerPoint. Donc, je pense que si je fais ça, les animations, je peux pas les mettre.
Je ne sais pas.
Ah, c'est ça. Je pense que je vais être obligée de partager mon écran au complet. En tout cas, on va essayer, on va voir. Donc, c'est ça. Et j'ai un blog qui s'appelle Le Tribunal de l'Info, FAUX, où je critique les médias, en fait, régulièrement. Je publie des textes, mais aussi des plaintes envers les journalistes. Mmh. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas faire mes animations. Mes animations sont très importantes. Donc, ce que je vais faire, au lieu de partager ça, je vais partager mon écran au complet. Attends un petit peu.
Voilà. Donc,
OK,
oui,
parfait.
C'est bon.
Donc, vous voyez seulement Big...
Titre, là.
OK, voilà, parfait. Donc, Big Pharma, propagande et influence. Donc, c'est quelque chose que j'étudie et qui m'intéresse depuis, comme je disais, là, depuis au moins le H1N1. Donc, la propagande, pour moi, de l'industrie pharmaceutique, la plus belle œuvre de propagande de l'industrie pharmaceutique, c'est « Les vaccins sont sûrs et efficaces ». C'est un slogan qu'on entend constamment et qui a été travaillé depuis des années. Hein? Et pour moi, c'est vraiment une œuvre de propagande vraiment magistrale, mais qui utilise des techniques de base de propagande. Hein. Les principes de base de la propagande sont simples. Affirmation, répétition, contagion. Et ça vient de Gustave Le Bon, la psychologie des foules. C'est la première fois que j'ai lu ça. Et c'est encore aujourd'hui, c'est cette technique-là qu'on utilise. Donc, on affirme quelque chose, on le répète, et à force de le répéter, les gens, eux aussi, le répètent. C'est le phénomène de la contagion, hein, et ça fit avec le sujet de la COVID. Donc, voilà, principe de base. Ça fonctionne et ça fonctionne toujours. Combien de gens vont répéter ce qu'ils entendent à la télé puis ce qu'ils lisent dans les journaux? C'est une très, très grande partie de la population. Mais quand on s'arrête pour leur demander, qu'est-ce que tu entends, par exemple, qu'est-ce que tu entends par complotiste? Les gens ne savent pas quoi répondre parce qu'ils ne font que répéter ce qu'ils ont déjà entendu. Donc, une autre chose qui est très importante et qu'on ne souligne jamais ou pratiquement jamais, c'est l'influence de Big Pharma. Donc, il y a vraiment, Big Pharma a une influence tentaculaire, OK, et ce qu'on appelle l'emprise des entreprises et la capture réglementaire. Ce sont des phénomènes dont on ne parle jamais, pratiquement, dans les grands médias. Donc, on va voir c'est quoi l'emprise des entreprises et la capture réglementaire. En fait, la capture réglementaire, c'est quand les institutions privées prennent possession, si on veut, des institutions publiques ou qui s'infiltrent pas nécessairement qui s'infiltrent, mais elles ont des positions de choix dans les institutions publiques et elles arrivent à influencer les décisions. Donc, on va voir qu'il y a une emprise de l'industrie pharmaceutique dans les revues médicales, dans les institutions publiques, à travers les partenariats publics et privés, à travers les fondations comme la Fondation Gates. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être une fondation que les gens connaissent peu, en tout cas. Moi, quand j'en parle, les gens me disent qu'ils bon, ne savent pas c'est quoi. Et aussi les organisations internationales, bien sûr. Donc, ceci explique cela, hein, des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 pour toutes les personnes au Canada. Donc, ça, c'est vraiment, c'est grâce à des années de propagande et d'influence de l'industrie pharmaceutique qu'on en arrive à ça aujourd'hui. Des exemples de captures réglementaires, hein, ça date pas d'hier. Ici, il y a un article de 2005 de Richard Smith, qui est l'ancien rédacteur en chef du British Medical Journal. Donc, c'est un article qui s'intitulait... Là, j'ai tout traduit avec traduction Google, là. Donc, c'est des articles en anglais. Mais c'est ça, le titre ici, c'est « Les revues médicales sont une extension de la branche marketing des entreprises pharmaceutiques ». Et là, je vais avoir plusieurs citations à vous lire. Ça va être un peu long, mais je pense que ça résume bien toute l'influence de l'industrie. Donc, je pense que c'est important de passer vraiment à travers chaque citation. Donc, ici, Richard Smith qui dit « Les revues se sont transformées en opérations de blanchiment d'informations. Hein, » ça, j'aime ça. C'est vraiment l'idée d'une espèce de crime organisé. « Blanchiment d'informations pour l'industrie pharmaceutique », écrivait Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, en mars 2004. La même année, Marcia Angel, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, a fustigé l'industrie pour être devenue principalement une machine de marketing et pour avoir coopté toutes les institutions qui pourraient lui faire obstacle. Les revues médicales étaient manifestement absentes de sa liste d'institutions cooptées, mais elle et Horton ne sont pas les seuls rédacteurs en chef qui sont devenus de plus en plus irrités par le pouvoir et l'influence de l'industrie. Jerry Casserer, un autre ancien rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, soutient que l'industrie a dévié les boussoles morales de nombreux médecins. Et les éditeurs de PLOS Medicine ont déclaré qu'ils ne feront pas partie du cycle de dépendance entre les revues et l'industrie pharmaceutique. Et là, ici, on dit que le problème a moins à faire avec la publicité et plus à faire avec les essais sponsorisés. Donc là, ici, vous avez Richard Smith, qui est l'ancien rédacteur en chef du BMJ, Richard Horton, ancien rédacteur en chef du Lancet, peut-être encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas, Marcia Angel, New England Journal of Medicine, ensuite un autre, donc on a quatre rédacteurs en chef de grandes revues médicales qui nous disent qu'il y a un problème, carrément un problème. Et on parle de blanchiment d'informations pour l'industrie. Donc, voilà. Et sur les essais cliniques, ici, les professeurs Philippe Even et Bernard Debré, que vous connaissez probablement, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux » et pour lesquels ils ont eu des problèmes avec les ordres professionnels. On dit « Les essais cliniques réalisés par l'industrie, soumis pour évaluation aux autorités sanitaires, sont biaisés, manipulés de manière frauduleuse, mensongers, ils occultent les dangers et amplifient les effets positifs. » Ensuite, trois auteurs, dont un que j'aime bien, Joel Lexchin, qui est Canadien, qui écrit beaucoup à ce sujet-là, et qui disent que l'industrie pharmaceutique a corrompu la pratique de la médecine par son influence sur le développement des médicaments et la façon dont ils sont testés, ainsi que sur la création des connaissances médicales. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin, là, hein, avec le musellement carrément des médecins partout à travers le monde. Ben, en tout cas, du moins dans plusieurs pays occidentaux. Ensuite de ça, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts n'affectent pas seulement la recherche, ils façonnent directement la pratique de la médecine par leur influence sur les directives médicales publiées par les organismes professionnels et gouvernementaux. Et ça, c'est Marcia Angel qui récidivait en 2009 avec ses critiques. Et un homme que j'aime beaucoup qui a écrit le livre « Remède mortel » et « Crime organisé », hein, qui parle de l'industrie pharmaceutique, Peter Gutsche, qui est un des fondateurs, un des cofondateurs de la librairie Cochrane, qui est reconnu comme étant l'une des meilleures là, pour faire des études sur les médicaments, ben, sur la santé en général. Lui dit « L'industrie pharmaceutique ne vend pas des médicaments, mais des mensonges à propos des médicaments. Pour cela, elle recourt largement à des comportements criminels et à la corruption facilité par une réglementation inefficace qui aurait besoin d'une réforme radicale. Donc, tous ces gens-là, ce serait difficile de les traiter de complotistes. Hein. C'est des gens qui travaillent dans le milieu, qui savent de quoi ils parlent, des gens avec des positions respectables quand même. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que ce discours-là, ce n'est pas un discours de complotistes, ce sont des gens du milieu qui en parlent et qui dénoncent ça. Et pour bien terminer ces citations, une citation de 2020 hein, de Kamran Abbassi, un autre rédacteur en chef du BMJ, qui dit « La COVID-19, ça a amené la politisation, la corruption et la suppression de la science ». Et ça, c'est ma dernière citation. Après, je vais passer à autre chose. Mais c'est vraiment, c'est du bonbon, là. On nous dit « Quand la bonne science est supprimée par le complexe médico-politique, les gens meurent. Les politiciens et les gouvernements suppriment la science. Ils le font dans l'intérêt du public, disent-ils, pour accélérer la disponibilité des diagnostics et des traitements. Ils le font pour soutenir l'innovation, pour mettre des produits sur le marché à une vitesse sans précédent. Ces deux raisons sont en partie plausibles. Les plus grandes déceptions sont fondées sur un grain de vérité. » Mais le comportement sous-jacent est troublant. La science est supprimée à des fins politiques et financières. La COVID-19 a déclenché une corruption d'État à grande échelle et c'est nocif pour la santé publique. Donc, les politiques de l'industrie sont responsables de ces malversations opportunistes. Et là, on parle du complexe médico-politique. Et on dit que c'est le moment, et c'est encore plus important dans des situations comme ça de sauvegarder la science. Là, je vois pas la citation complète parce que j'ai un petit bouton devant moi. Mais tout ça pour dire que, écoutez, on parle de corruption, d'influence indue, de suppression de la science. Je veux dire, tout est là. Et ces gens-là, ce sont des gens qui vivent ça de l'intérieur. Ce ne sont pas des soi-disant complotistes. Maintenant, rappel important, tout à l'heure, je parlais du H1N1. H1N1, il y a eu un rapport qui a été écrit par le Conseil de l'Europe, hein, par M. Paul Flynn. Et ici, on dit la gestion de la pandémie H1N1 a nécessité de plus de transparence. Donc, on dit l'Assemblée parlementaire est alarmée par la façon dont la grippe pandémique H1N1 a été gérée, non seulement par l'Organisation internationale de la santé, mais aussi par les autorités de santé compétentes tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national. Et là, on s'inquiétait de toutes sortes de choses. En fait, ce qu'on a dénoncé à l'époque, et là, on va le voir dans un article du Journal de Montréal, mais ici, moi, il y a un passage que je répète souvent. C'est clairement écrit, là, c'est noir sur blanc, dans un rapport du Conseil de l'Europe. L'industrie pharmaceutique avait tout intérêt à ce qu'une pandémie soit déclarée et que des campagnes de vaccination soient lancées. Est-ce possible que l'histoire se répète? Hein? La question se pose. Et voilà. Et nos grands médias ont totalement ignoré ça. Hein, depuis 2020, on n'a jamais reparlé de... En tout cas, si on l'a fait, moi, je ne l'ai pas vu. Dans les grands médias, moi, je n'ai pas entendu personne dire « Écoutez, est-ce que ça se pourrait qu'on nous refasse un H1N1? » Et ça, c'était dans le Journal de Montréal. On dit « Fausse pandémie et conflit d'intérêts. Des experts québécois et européens accusent l'Organisation mondiale de la santé d'avoir exagéré l'importance de la grippe H1N1 et d'avoir favorisé volontairement l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique. Nullement épargné par cette controverse, le gouvernement du Québec est blâmé d'avoir naïvement suivi le mouvement mondial. » Et là, on accuse l'OMS d'avoir changé la définition de pandémie. Laissant la belle part aux compagnies pharmaceutiques qui auraient profité de cette hystérie pandémique. Je sais pas, moi je lis ça puis je me dis, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit actuellement, mais fois mille. Donc voici des exemples de capture et d'emprise encore de l'entreprise. Et là, je vous parle spécifiquement du Québec. Ça, j'ai trouvé ça récemment et c'est très intéressant. On a ici le Fonds du Québec, le Fonds de recherche du Québec. Il y en a trois qui sont regroupés, nature et technologie, santé, société et culture. Et là, ici, j'ai le conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec en santé. Et on dit que ces gens-là sont nommés par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec et que la composition du conseil d'administration reflète la vocation du Fonds de recherche en santé. Et qui on a à la présidence du conseil d'administration? Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on a un scientifique en chef au Québec. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plus de gens qui devraient s'intéresser à ce monsieur-là. Moi, j'ai découvert toutes sortes de choses vraiment intéressantes qui me laissent assez perplexe. Et qui on a à la vice-présidence de ce fonds de recherche en santé, hein, c'est un fonds public, Patrice Roy, directeur des affaires médicales, inflammation et immunologie chez Pfizer Canada. Qu'est-ce qu'un représentant de Pfizer, et c'est pas n'importe qui, là, c'est le directeur des affaires médicales, hein, chez Pfizer Canada, et ce monsieur-là travaille chez Pfizer depuis au moins 25 ans. Qu'est-ce qu'un représentant de Pfizer fait sur un fonds de recherche public, à la vice-présidence d'un fonds de recherche public? Je me pose des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, pour moi, je ne sais pas. Je trouve que, disons que ça sent un peu mauvais. Ça ici, c'est Admarie Bioinnovation. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une société qui investit dans des pharmaceutiques. Et en fait, on voit ici, là, ils ont des partenaires dans l'innovation. Tout le monde est là, hein? Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Pfizer et une autre... j'imagine que c'est une pharmaceutique, Robic, je ne me suis pas attardée trop à ça. Mais c'est ça, c'est une société qui investit dans des compagnies pharmaceutiques. Et j'ai découvert que sur le conseil d'administration siégeait notre scientifique en chef du Québec. Mais si vous allez voir le conseil d'administration, vous ne le verrez pas ici. Il faut aller voir dans le registre des entreprises. Et on trouve comme administrateur Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Donc, c'est assez intéressant. Ça ici, c'est une autre, un truc que j'ai trouvé effervescence, hein? Partenaire propulseur, le gouvernement du Québec et Pfizer. Qu'est-ce que c'est ça, effervescence? C'est un événement phare en Amérique du Nord qui présente des thématiques d'actualité et des thématiques du futur des sciences de la vie. En ça, maintenant, on appelle ça comme ça, hein? C'est plus l'industrie pharmaceutique, c'est les sciences de la vie. Dans le cadre de 2 jours immersifs et enchanteurs, il est une occasion unique de rencontrer les acteurs en sciences de la vie et technologies de la santé pour échanger autour de ces thématiques, en plus de forger de nouveaux partenariats d'affaires. Donc, je veux dire, ces gens-là, il y a vraiment, ce que je veux montrer en fait, c'est comment le public et le privé sont imbriqués, hein, comment l'industrie pharmaceutique est imbriquée avec les institutions publiques. Et qui on avait à cet événement phare-là? Ben notre premier ministre, hein, ici en haut à droite, François Legault, et Madame la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en bas au centre. Donc, c'est intéressant. Là, ce que je dis, c'est tout simplement, regardez, ces gens-là, il y a vraiment beaucoup, on dirait que c'est un milieu très, très incestueux, il y a beaucoup d'imbrications des deux, du public et du privé. Donc, la COVID, à qui ça profite dans cet écosystème-là? Eh bien, on va retourner à Admarie Bioinnovation. On voit ici une entreprise qui s'appelle Nexcellis. Et Nexcellis, c'est quoi? On va aller voir. C'est une entreprise lavalloise qui excelle dans l'homologation des vaccins. Hein? On pouvait lire en janvier 2021, avec le ralentissement de la production chez Pfizer, la nécessité d'homologuer de nouveaux vaccins contre la COVID-19 demeure un enjeu important. Une entreprise de Laval, Nexcellis, joue un rôle clé dans cette recherche de solutions et des scientifiques de partout dans le monde y testent l'efficacité de leurs vaccins. Entre 40 et 60 vaccins sont encore en développement clinique. Il y en a la moitié qui est analysée ici. Donc, ça doit être assez payant. Je ne sais pas, j'imagine. La moitié, donc la moitié des vaccins en essai clinique en janvier 2021 étaient testés chez Nexcellis. Donc, ça soulève beaucoup de questions chez moi. Maintenant, le rôle des fondations. Comme je vous disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler de la Fondation Gates, mais très peu de Wellcome Trust. Et Wellcome Trust, c'est quand même assez intéressant. Ils ont quand même un rôle, ils ont joué un rôle très important dans toute cette hystérie covidienne. Et là, je voulais vous montrer leur page d'accueil. Hein, quel genre de propagande on publie hein, sur le site de Wellcome Trust. Et ça, c'est assez étonnant. La confiance du public dans les scientifiques a augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Bien, bien. Ici encore, comment la COVID-19 a augmenté la confiance du monde en la science. Ici, on nous dit la prochaine pandémie. Pourquoi la déforestation en RDC pourrait libérer de nouveaux virus? Alors là, on nous prépare à l'avenir. La chose la plus intéressante que j'ai trouvée sur Wellcome Trust, c'est un texte qui a été écrit en 2018 et qui a vraiment, pour moi, là, une importance capitale actuellement. C'est été publié dans Médecine, Soins de santé et philosophie. Et on dit « L'obligation morale de se faire vacciner. Hein? Utilitarisme, contractualisme et sauvetage collectif facile. » Donc, c'est un texte qui nous dit, en gros, on voit la première phrase, elle nous dit « Nous soutenons que les personnes qui ont un accès au vaccin et pour qui la vaccination n'est pas médicalement contre-indiquée ont l'obligation morale de contribuer à la réalisation de l'immunité collective en se faisant vacciner. Établir l'existence, en bleu, là, c'est ce que ça dit, établir l'existence d'une obligation morale de se faire vacciner, tant pour les adultes que pour les enfants, malgré la contribution négligeable que chaque vaccination peut apporter à la réalisation de l'immunité collective, est important car une telle obligation morale renforcerait la justification des politiques de vaccination coercitive. » Tiens, tiens, pourquoi aurait-on besoin de justifier des politiques de vaccination coercitive? Pourquoi on pense à ça en 2018? Et là, l'emprise ultime des entreprises, l'emprise ultime de l'industrie pharmaceutique, l'OMS. Eh bien voilà, en 2017, on nous présentait le médecin le plus influent du monde, Bill Gates. Hein? Cet article-là est très intéressant, c'est un article de Politico qui est tout ce qu'il y a de plus mainstream comme média. Et on nous disait que, en fait, il y avait beaucoup de critiques au sein de l'OMS même contre Bill Gates, parce qu'on disait qu'il mettait les priorités de l'OMS à la mauvaise place et qu'il avait une influence indue. Eh bien, c'est des gens du milieu qui le disent. Et là, en 2019, qu'est-ce qu'on a? Hein? 10 ennemis que l'OMS devra affronter cette année. Et on avait, dans ces menaces-là, la méfiance à l'égard des vaccins. Et là, on nous dit, les motifs de la non-vaccination volontaire sont complexes. Moi, je pourrais vous expliquer ça très simplement. Un groupe consultatif de l'OMS a mentionné l'excès de confiance. Excès de confiance en quoi, là, on ne sait pas. Les difficultés d'accès aux services et le manque de confiance comme raison essentielle. Donc, on a excès de confiance et manque de confiance. C'est un peu contradictoire, mais bon, passons. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Donc, tout ça, ce topo-là que je vous ai montré, avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur l'industrie pharmaceutique, toutes les imbrications avec le public, l'influence indue, etc., etc., tout ce dont on vient de parler, pour les journalistes mainstream, hein, ben ceux qui questionnent la propagande aujourd'hui et qui suivent les règles et qui questionnent la propagande et les règles absurdes, hein, de la COVID, ben très souvent, ces gens-là sont au courant de ça. Mais pour les journalistes mainstream, ben, ce sont les idiots du village global. Hein? Ici, on a notre cher ami Patrick Lagacé de La Presse. Je vais vous lire un petit extrait de ça. C'est un article qui est paru le 6 août 2020. Il dit « Chaque fois que je vois un délire anti-masque, je me pose toujours la même question. Est-ce une maladie mentale? Hein? » On essaie beaucoup de nous faire passer pour des gens qui ont des problèmes, des maladies mentales. Ensuite, il dit « J'ai posé la question à un psychiatre de ma connaissance, qui préfère ne pas être identifié pour éviter de se faire accuser de poser des diagnostics à distance, ce qu'il ne veut bien sûr pas faire, mais qu'il fera dans le prochain paragraphe. » Donc, il dit, ces gens-là, ce sont des oppositionnels. On est plus dans la psychologie que dans la psychiatrie, je te dirais. Il existe des gens qui s'opposent à tout et à tout le monde. Des gens qui ont tendance à mettre en doute l'intégrité des autres en cas de désaccord. Hein, c'est simpliste et réducteur, disons, comme explication. Et c'est ça, pour la personne qui tombe dans l'anti-masque, c'est que, poursuit le doc, la réalité est ce qui est devant eux. C'est ce qu'ils peuvent voir, toucher, point. C'est du premier degré pur, une absence totale de nuances de gris. Mais c'est drôle parce que moi, quand je lis son évaluation psychiatrique, ben, je trouve que c'est lui qui fait du premier degré pur et qui fait la preuve d'absence totale de nuances ou de gris. Donc, voilà. Maintenant, on passe à un autre sujet, mais qui est quand même connecté. Opération clandestine des Forces armées canadiennes, dont pratiquement personne n'a entendu parler, hein, même des gens du mouvement là, qui contestent au Québec. Et ben, pourquoi ils n'en ont pas entendu parler? Parce que ben, moi, j'ai cherché dans les médias québécois et je n'ai trouvé aucune trace de cette opération-là. Donc, en avril 2020, les Forces armées canadiennes ont mis en œuvre, en fait, c'est un département là, des Forces armées qui aurait fait cette opération psychologique-là sans avoir d'autorisation de ses supérieurs. on peut douter de ça. Mais bon, c'est ce qu'on dit. Donc, cette opération-là, en fait, les chefs militaires, ça, c'est ce qu'on a su là, au mois de septembre, après des demandes d'accès à l'information. Les chefs militaires ont vu la pandémie comme une occasion unique de tester des techniques de propagande sur les Canadiens. Et parmi ces techniques-là, il y avait des techniques de propagande similaires à celles utilisées pendant la guerre en Afghanistan. Hein? Et parmi ces techniques-là, il y avait, ils utilisaient en Afghanistan des gros... des speakers, le nom en français m'échappe, j'ai le nom français vraiment, des enceintes,
des haut-parleurs.
C'est ça. Des gros haut-parleurs. Et bon, Jean-Jacques, t'as été dans plusieurs manifestations, donc tu le sais, on avait des gros camions de policiers, oui. Des espèces de paniers à salade avec des gros haut-parleurs qui nous crachaient les mesures sanitaires, les décrets. Selon le décret, vous pourriez avoir une contravention de 1 500 $ si vous ne portez pas le masque, si vous ne vous distanciez pas. Donc, c'est le genre de technique qu'ils ont utilisé en Afghanistan. Et ce qui est intéressant de cette opération-là, dans cet article-là, on peut lire « La campagne appelait à façonner et à exploiter l'information ». Le commandement des opérations interarmées du Canada, ceux qui ont fait cette opération-là, a affirmé que le programme des opérations d'information, en fait, c'est des opérations psychologiques, là, était nécessaire pour empêcher la désobéissance civile des Canadiens pendant la pandémie de coronavirus et pour renforcer les messages du gouvernement sur la pandémie. Donc, ça, c'est le genre de nouvelles qui devraient faire la première page des médias. Et au Québec, on n'en a pas entendu parler du tout. Et dans le Ottawa Citizen, qui est un journal ontarien, David Pugliese, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, il a écrit une série d'articles là-dessus et c'est vraiment fort intéressant. Mais même à ça, je doute qu'il y ait un peu de désinformation dans ces articles-là. Vous allez comprendre pourquoi. En août 2020, on apprend que, c'était, je pense, un des premiers articles là, sur cette opération-là. Donc, on dit la campagne d'influence de l'armée COVID-19. En fait, les premiers articles, d'après ce que j'ai vu, ils sont sortis en juillet 2020. Et c'est ça, on dit la campagne d'influence de l'armée COVID-19 déclenche, en fait, c'est une traduction littérale, là, c'est pas bon. La campagne d'influence COVID-19 de l'armée déclenche une enquête, l'élaboration de nouvelles règles pour régir les opérations d'information. Donc, désolé pour la mauvaise traduction, là. Mais ce qu'on disait ici, on disait que les gens sont généralement nerveux à l'idée d'opérations d'information. Ils craignaient que le terme d'opération d'information amène les gens à penser à la propagande ou à influencer les gens par la tromperie. Tiens. Et là, on nous dit, le plan d'opération ça a été mis en place le 8 avril 2020. Ça a été temporairement annulé 5 jours plus tard et puis officiellement arrêté le 1er mai. Retenez ça. Officiellement arrêté le 1er mai. Bon, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? En juin 2020, le renseignement militaire canadien a surveillé le mouvement Black Lives Matter, affirmant que la pandémie justifiait de telles actions. Et dans l'article, on peut lire une section du rapport de BLM intitulée « Acteurs étrangers hostiles et complètement censurés pour des raisons de sécurité nationale ». Ça, c'est la raison parfaite pour cacher des informations. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi espionner Black Lives Matter, mais pas les opposants aux mesures si le but de l'opération était de renforcer le message du gouvernement sur la pandémie et de prévenir la désobéissance civile? Parce qu'il y en avait des manifs là, à cette époque-là contre les mesures sanitaires. Donc, je me pose vraiment la question, pourquoi aller espionner BLM et pas les groupes au Québec, là où il y a eu le plus de contestations? Donc, c'est pour ça que je vous dis que probablement que dans ces articles-là, il y a de la désinformation. Maintenant, on continue avec cette opération-là. Septembre 2020, donc je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que l'opération s'était officiellement terminée le 1er mai. Septembre 2020, la campagne militaire visant à influencer l'opinion publique s'est poursuivie après qu'on l'ait annulée le 1er mai 2020. Donc, on nous dit que l'armée a parcouru les médias sociaux en Ontario et lancé une fausse alerte au loup en Nouvelle-Écosse. Hein, intéressant. Donc, c'est un petit chapitre qui s'intitule « Crier au loup ». L'armée a lancé une enquête après qu'une unité de réserve spécialisée dans la guerre de l'information a mené un exercice d'entraînement à la propagande en septembre 2020. En Nouvelle-Écosse, ça impliquait une fausse lettre avertissant que des loups gris avait été relâché dans la communauté. Donc, on le dit plus bas encore, là. Il s'agissait d'une opération psychologique utilisée sur les Canadiens pour influencer leur état d'esprit. Alors là, on a l'armée qui crée des fausses lettres. Et c'était une lettre, là, qui semblait provenir des autorités de Nouvelle-Écosse. Et on leur dit qu'il y a des loups errants dans la communauté. Écoutez, là, c'est clair que ce qu'on veut faire, c'est d'apeurer les gens. Pourquoi on ferait une opération psychologique sur sa propre population pour lui faire peur? Et là, on nous dit ça, ah oui, on fait une opération avec des loups et tout et tout. Et moi, je me dis, OK, mais c'est parce que le but, encore là, de l'opération, ils le disent clairement, c'était de façonner le discours et d'empêcher de façonner le discours sur la COVID, sur la pandémie et de prévenir la désobéissance civile. Donc là, on nous parle de BLM, d'histoire de loup errant. Moi, je me dis, il y a autre chose derrière ça. Je me pose beaucoup de questions. Et pour moi, l'outil indispensable des opérations de propagande, mais je dis pour moi, mais je veux dire, quand on étudie un peu la question, on le sait, une opération psychologique ne se fait pas sans les médias. Hein? Et les médias au Québec, ils ont joué un rôle vraiment hallucinant. Hein? Ils ont vraiment bafoué toutes les règles d'éthique journalistique possible et imaginable. Les valeurs fondamentales du journalisme ont été complètement ignorées, totalement ignorées. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment, à mon avis, à mon très humble avis, de la propagande haineuse. Hein? Donc voilà, ici, ça c'est un des premiers à avoir été attaqué. Monsieur Lacroix, docteur Lacroix, hein? Alors on dit, bon, médecin anti-masque. Ensuite de ça, la lutte acharnée des anti-masques. Ensuite de ça, blogueur complotiste, durement blâmé par son ordre professionnel. Ensuite de ça, professeur de psychologie complotiste, chiro-complotiste, un dentiste complotiste, propriétaire de gym complotiste, ton prof de cégep est complotiste, un prof de droit complotiste, leader complotiste. Alors ça, encore là, si vous vous rappelez, comme je vous disais au départ, la technique de base de propagande, affirmation, répétition, contagion. Et combien de personnes vous entendez dire aujourd'hui « Ah, complotiste, complotiste, complotiste », mais posez-leur la question « Qu'est-ce que tu entends par complotiste? Pourquoi tu dis que cette personne-là est complotiste? » Ils ne pourront jamais vous répondre parce qu'ils font que répéter ce qu'ils ont entendu. Est-ce qu'ils ont pris la peine d'écouter la personne qui traite de complotiste? Très souvent, non. Ils ont lu ça dans le journal « Ah, lui, c'est un complotiste. » Mais tu leur demandes la définition, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas vous la donner. Et là, mais heureusement, on a Radio-Canada hein, qui nous dit c'est quoi. Mais qu'est-ce qu'un complotiste au juste? Et pour nous expliquer tout ça, on invite une personne qui est le fondateur d'InfoSecte. Hein? Et là, bon, ça continue. Aujourd'hui, là, on est dans les antivax. Ah, les antivax sont des dangers publics. Rappelez-vous, hein, le document de l'OMS de 2019, hein, la menace, une des menaces dans le monde en 2019, la méfiance envers les vaccins. Donc, les antivax sont des dangers publics. Les antivax font peur. Il faut faire la guerre aux antivax, ce qu'elle nous a dit, hein, Denise Bombardier. Oui, au passeport vaccinal. Monsieur, ça, c'est Astrapath, hein. Astrapath qui est couru aller se faire vacciner la journée où il a pu aller se faire vacciner avec AstraZeneca. Et il y avait un bel article où il disait « Appelez-moi Astrapath ». Et là, c'était larmoyant. Il était ému d'aller se faire vacciner. C'était vraiment épouvantable, hein. Ensuite de ça, le Québec, paradis des complotistes et des sectes, hein? Et là, ici, on parle de notre ami Jean-Jacques. Mais oui, hein? Les services de renseignement français sont après toi, Jean-Jacques, apparemment. Ils t'ont à l'œil avec Alexis Cossette. Et là, ici, on a notre ami, hein, Richard Martineau. Et on dit, ouais, la police devrait se pointer chez ce gars-là. Et là, on parle de qui? On parle de Jean-Claude Crèvecœur. Donc, je ne savais pas, Jean-Jacques, que tu avais un frère qui s'appelait Jean-Claude ou un cousin.
Non, non, mais tu as vu en plus que je suis médecin québécois. Hein?
Oui! En tout cas, c'est hallucinant.
Et il le dit dans son interview que je suis d'origine française. Alors, dans le texte, c'est belge, mais dans l'interview, il dit français, un médecin québécois d'origine française. Voilà, Jean-Claude Crèvecœur. Ouais.
Mais tu n'es pas que ça, Jean-Claude, Jean-Jacques, ou peu importe, tu es le gourou des Laurentides. Ça, vraiment, c'était de toute beauté, hein, avec la charmante Isabelle Haché, qui, quand on lit ses textes, on se rend compte qu'elle connaît pas grand-chose, la petite Madame Haché. Donc, voilà. Donc, ma question, après avoir vu tout ça, est-ce que les médias québécois ont participé à cette opération clandestine de l'armée? Je me pose la question, vraiment. Ça ressemble beaucoup à l'opération psychologique de 1938, là, la guerre des mondes. Là. Je pense que c'était... Orson Welles et...
Si, c'est Orson Welles.
C'est Orson Welles, OK. Ouais. Donc c'est ça, ils ont fait semblant qu'il y avait une invasion d'extraterrestres à la radio. Ils ont lu un passage pour voir vraiment comment les gens allaient réagir. Et les gens ont vraiment, il y a des gens qui ont vraiment eu peur, ouais, et qui y ont cru. Donc, voilà. Et en terminant, écoutez, ça, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Défi innovation de l'OTAN. Hein? En novembre 2021, j'ai trouvé ça. Automne 2021. Défi innovation de l'OTAN, automne 2021. Outils pour lutter contre la guerre cognitive, la menace invisible. Et là, c'est hallucinant. On lit ça. Les tentatives de l'adversaire pour manipuler le comportement humain constitueront un défi permanent pour la défense et la sécurité des pays alliés. Cette menace émergente de la guerre moderne va au-delà du contrôle du flux de l'information. La guerre cognitive cherche à modifier non seulement ce que les gens pensent, mais aussi leur façon de penser. Les attaques contre le domaine cognitif impliquent l'intégration de capacités cybernétiques, de désinformation, de psychologie et d'ingénierie sociale. Et là, bon, on dit, bon, la guerre cognitive voit l'esprit comme terrain, comme champ de bataille. On dit son objectif est de semer la dissonance. Et là, je vois pas, là, parce que j'ai mon petit bouton ici qui m'empêche de voir. Mais c'est ça, la polarisation, la radicalisation des groupes. La guerre cognitive peut inciter les gens à agir d'une manière qui peut perturber ou fragmenter une société autrement cohésive. Le désordre qui en résulte peut influencer la prise de décision, modifier les idéologies et susciter la méfiance des alliés. Et là, à cela, je pose une autre question, ma dernière question. Les médias ont-ils mené une guerre cognitive contre le peuple? Je ne sais pas si c'est Malcolm X qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui l'a dit. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à aimer ceux qui les oppriment. Donc, on a vraiment fessé fort sur le clou au Québec pour vraiment que les gens détestent tous ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires et qui contestent et qui demandent des débats et qui sont critiques de la vaccination et tout et tout. Donc, relever le défi innovation par l'organisation en 2022. Hein? Donc, je trouve qu'une image vaut mille mots. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma petite présentation avec toutes mes questions.
Bravo. Mais en tout cas, merci pour cet exposé absolument brillant et où on sent que tu as beaucoup travaillé pour préparer ton intervention, Julie. Donc,
merci. Ça me fait plaisir. C'est des mois et des mois de recherche que j'ai mis dans un PowerPoint. C'est plein de choses dont j'ai déjà parlé auparavant, mais je trouvais que ça faisait une belle synthèse de la crise, en fait, et puis des origines, et puis de la façon dont on peut se faire manipuler.
Alors, on a sûrement plein de questions à te poser. Alors, je ne sais pas si Chloé ou Tal, vous avez déjà une réaction à avoir par rapport à l'intervention de Julie et peut-être des commentaires ou des questions. Vas-y, Tal.
Que c'est un régal d'entendre une journaliste qui est indépendante, parce que la plupart des journalistes maintenant, ils font que répéter Reuters, c'est l'agence France-Presse, enfin bref, ils travaillent plus, le journalisme a disparu. Alors ça me fait chaud au cœur d'entendre une vraie journaliste qui ose poser des questions et qui n'est pas simplement en train de répéter. Je trouve que ça, c'est vraiment, Julie, tu fais un travail formidable, avec beaucoup d'humour et de clarté. C'était vraiment un régal de t'écouter.
Merci, c'est gentil. Mais justement, tu mentionnes le Reuters. Un des dirigeants de Reuters est aussi sur le conseil d'administration, ou en tout cas de Pfizer.
Attends, Julie. J'ai justement, j'avais préparé la diapositive. Je ne savais pas que vous alliez parler de Reuters. Eh bien, je vais vous le montrer. Voilà, comme ça, tu peux le commenter toi-même. Voilà, donc l'agence Reuters. En fait, j'ai trouvé deux articles, un dans le Defender. Donc, moi aussi, c'est une traduction Google. Hein, conflit d'intérêts, Reuters vérifie les faits dans les médias sociaux liés au COVID, mais ne révèle pas ses liens avec Pfizer, le Forum économique mondial. Et il y a aussi la Trusted News Initiative. Voilà, donc ça, c'est un des premiers scandales. Et alors, dans un autre journal dit Exposé, c'est conflit d'intérêts, les membres du conseil d'administration de Pfizer comprennent l'ancien directeur de Facebook et l'ancien PDG de Reuters. Y aurait-il un conflit d'intérêts? Je ne sais pas si tu as envie de commenter ça, mais je voulais le montrer parce que je trouvais ça tellement gros de voir que finalement, c'est, comme tu disais tout à l'heure, ce sont des relations totalement incestueuses entre les médias et les compagnies pharmaceutiques.
Alors, absolument, et les médias n'en parlent jamais. Ils ne font que parler de... Et tout ça, pour eux, là, ça n'existe pas et on ne parle que de complotisme. Mm-hmm. Et je veux dire, et ça fonctionne avec les gens, même des gens qui sont intelligents, qui sont, je veux dire, qui ont, tu sais, je veux dire, qui sont scolarisés et tout. J'ai rencontré un avocat un jour, puis on se met à parler, tout ça. Je le connaissais pas, je l'ai croisé sur la rue, je prenais une marche, il promenait son chien, j'ai commencé à flatter son chien, puis on a commencé à discuter de la situation. Et il était très étonné de m'entendre critiquer la situation actuelle. Et le premier commentaire qu'il m'a fait, c'est « Mais t'es articulé? » Parce que les médias ont tellement fessé sur le clou qu'on est des édentés, des imbéciles, des idiots, des covidiots, des touristata, des ci, des... Vraiment, on est des gens sans éducation, qui sont incapables de s'exprimer, qui connaissent pas que sont les bonnes sources, qui ne savent rien et qui ne regardent que des vidéos sur YouTube faites par des gens sans expérience, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, tout ça, vraiment, ça a eu un effet chez les gens. Clairement.
Oui, moi aussi, je voulais te poser des questions, Julie. Merci beaucoup pour ta présentation. Et c'est vrai que ça rejoint vraiment ce qu'on décrit depuis des semaines et des mois, hein, avec toute l'équipe, sur les manipulations, l'ingénierie sociale, les médias qui mentent et qui disent vraiment qui nous salissent. Est-ce que tu as vu passer l'émission de cette semaine? C'était sur Enquête exclusive, qui décrivait les gens qu'ils appellent les complotistes, qu'ils assimilent aux survivalistes, comme la nouvelle menace. Donc, on passe de covidio, etc., gens débiles qui connaissent rien à rien, à des gens dangereux. C'était un petit peu ce qu'on prévoyait qui allait se passer. Hein. Chez nous, je rappelle qu'il y a la loi antiterroriste qui a été votée. En tout cas, voilà, on ne sait pas si c'est frauduleux ou pas, mais qui nous désigne toutes les personnes qui sont susceptibles de modifier ou d'orienter ou d'influencer l'ordre étatique comme des terroristes. Voilà. Donc, je voulais savoir si tu avais suivi ce documentaire et est-ce qu'au Québec, au Canada, en général, il y a des émissions comme ça fréquentes qui visent à donner le ton et à nous décrire toutes les personnes qui se posent des questions et qui font leur recherche tout seuls comme des gens dangereux.
Ah ben oui, absolument. Ben il y a un slogan au Québec, hein. Ben un slogan, c'est pas un slogan, c'est que dès le début, là, les journalistes riaient des gens qui disaient faites vos recherches. Et là, on a réussi à faire des gens qui font leur propre recherche, qui sont indépendants, des idiots. Comme si c'était... On a réussi à inverser habituellement, quelqu'un qui a un esprit critique, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas gober tout ce que les médias lui disent, tout ce que les gouvernements lui disent, et d'avoir un sens critique, de faire des recherches par lui-même. Mais là, on a inversé ça. C'est comme si faire ses recherches, c'est d'être idiot. Et quand on est intelligent, quand on a un esprit critique, ben on accepte ce que les médias nous disent et ce que le gouvernement nous dit. Et ben en fait, au Québec, au départ, la façon dont on dépeignait les militants, c'était des gens d'extrême droite. Extrême droite, racistes, sans éducation. Mais là est arrivé un monsieur qui s'appelle François Maléga, qui est un prof de mathématiques et qui est camerounais. Donc, tout leur discours d'extrême droite est tombé. Il est devenu le héros de la résistance. Donc, c'est difficile de dépeindre les gens comme étant d'extrême droite quand leur héros, c'est un Camerounais. Ensuite de ça, c'est ça. C'était fréquent là, qu'on disait que les gens étaient des gens sans éducation, des édentés. On était des édentés, ignares, etc., etc. Mais là, on a vu des scientifiques sortir et des gens avec des PhD sortir. Donc, là, ça non plus, ça tenait plus. Il y a eu un moment aussi où on essayait de nous faire passer pour des intégristes. On nous mélangeait avec des intégristes religieux, là, tout ça avec les sectes et le gourou des Laurentides, bien sûr. Donc, voilà, je veux dire, pour moi, c'est tellement évident que c'est de la propagande et que ça n'a rien à voir avec du journalisme. Je veux dire, ça crève les yeux.
Ouais. Je crois que Jean-Jacques a une question.
Oui, je t'avais déjà posé la question au téléphone il y a quelques semaines, Julie, quand je t'avais appelé, où je te demandais, mais est-ce que les journalistes au Canada, ou peut-être au Québec, c'est peut-être spécifique, ont une charte de déontologie du journalisme comme l'est la charte de Munich qui définit la déontologie journalistique, les devoirs et les droits des journalistes, une charte de Munich qui a l'air d'avoir été ratifiée par un certain nombre de pays, mais comment ça se passe au Canada ou au Québec spécifiquement?
Ben, au Québec, moi, je connais bien la situation au Québec parce que, ça fait quand même plusieurs années que je critique les médias. Et donc, le guide de déontologie journalistique, je le maîtrise sur le bout de mes doigts parce qu'ils ne le respectent jamais. Et vraiment, ce qui est absolument kafkaïen dans tout ça, c'est que j'ai fait des critiques depuis, je dirais, là, 2016-2017. J'ai fait des critiques au Conseil de presse du Québec, qui est un tribunal d'honneur des médias. Donc, ça n'a pas de poigne. Et les gens qui siègent au Conseil de presse, ce sont des gens des grands médias. Donc, c'est comme la police qui enquête sur la police. Au Québec, il y a le guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et le guide de déontologie du Conseil de presse. Mais comme il n'y a pas d'ordre professionnel, je ne dis pas que ce serait une bonne chose qu'il y ait un ordre professionnel. Au contraire, on voit ce qui se passe avec les ordres professionnels aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais les journalistes ne sont pas... Ce n'est pas un code de déontologie, c'est un guide. Donc, mais les journalistes sont tenus de suivre ces règles-là. Et les règles de base, si vous voulez, je peux vous montrer. C'est vraiment... Je vais vous montrer le guide de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est quand même quelque chose. Donc, le guide de déontologie, c'est un bon guide, mais...
Quand on respecte.
Exactement. il faut le respecter. Donc, ce guide-là. Puis après, je vais vous montrer autre chose... Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Donc ici, on a les valeurs. On parle des valeurs fondamentales du journalisme. Et ça, moi, je dénonçais ça souvent. Je disais, les valeurs fondamentales du journalisme ne sont pas respectées. Donc on dit, les journalistes basent leur travail sur des valeurs fondamentales telles que l'esprit critique, qui leur impose de douter méthodiquement de tout, ce qu'ils font pas du tout actuellement, l'impartialité qui leur fait rechercher et exposer les divers aspects d'une situation, ce qu'ils ne font pas, l'équité qui les amène à considérer tous les citoyens comme égaux devant la presse, comme ils le sont devant la loi, ils ne font pas ça non plus, l'indépendance qui les maintient à distance des pouvoirs et des groupes de pression. Chaque mois, les médias reçoivent 13 millions environ de dollars en publicité COVID du gouvernement du Québec. On sait très bien que les annonceurs ont une influence, veut pas, sur le contenu des médias. Le respect du public et la compassion qui leur font observer des normes de sobriété. Ben, on a vu à quel point Richard Martineau est sobre en se mettant une passoire sur la tête et en jouant de la flûte. Et c'est ça qui était drôle, ça disait que c'était pour dénoncer avec véhémence. Je veux dire, se mettre une passoire sur la tête et jouer de la flûte pour dénoncer avec véhémence, c'est absurde. Ensuite de ça, l'honnêteté qui leur impose de respecter scrupuleusement les faits. Et ça, c'est, je pense, ce qui est pratiquement jamais respecté depuis depuis le début de cette crise-là. Ouais. Hein? Et l'ouverture d'esprit qui suppose chez eux la capacité d'être réceptifs aux réalités qui leur sont étrangères et d'en rendre compte sans préjugés. Alors, vous avez vu, on ne voit que ça, des préjugés. Hein? Anti-masque, complotiste, anti-vaccin, etc., etc. Donc, ben voilà la preuve que, je veux dire, ils ne respectent pas du tout les règles de base. Et juste une dernière chose, dans le guide de déontologie du Conseil de presse du Québec, de déontologie journalistique, il y a un article sur la discrimination. Je vais vous montrer ça.
Après, je pourrais vous montrer l'équivalent en Suisse. C'est à peu près la même chose. Je crois qu'on est partout dans le monde. On est censé avoir ce code de déontologie qui n'est jamais respecté.
Exactement, exactement. Donc, dans le guide de déontologie du Conseil de presse, on dit sur la discrimination, les journalistes et les médias d'information s'abstiennent d'utiliser à l'endroit des personnes ou de groupes des représentations ou des termes qui tendent sur la base d'un motif discriminatoire à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir des préjugés. Je veux dire, ça n'a pas du tout été respecté, ça. Je veux dire, on carbure à la haine, au mépris, et on encourage la violence et les préjugés. C'est clair, quand on a Denise Bombardier qui dit « il faut faire la guerre à ces gens » et qui le répète, je veux dire, au moins deux reprises.
Oui, et qu'elle nous traite de crackpot, d'imbéciles,
d'ignares,
etc. Voilà. Et je l'avais montré dans une émission il y a quelques semaines, j'avais montré son article, et dans la phrase suivante, elle dit « Et ces gens-là n'arrêtent pas de nous insulter ». Moi, je trouve ça extraordinaire quand même que, en deux phrases, donc elle nous traite de tous les noms, et dans la phrase suivante, elle dit « Et ces gens-là n'arrêtent pas de nous insulter, nous les pauvres journalistes ». Voilà.
L'inversion accusatoire, comme toujours.
Comment, oui, l'inversion?
L'inversion accusatoire.
Ouais, exactement.
Ils reprochent ce qu'ils font, eux, en fait.
Ouais, vraiment, beaucoup de projections.
Eh bien, en tout cas, merci Julie. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, j'imagine.
Merci.